L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Hello, bienvenue, salut à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute du Canu Info, nous sommes le jeudi 24 octobre 2019. Et ce soir j'ai donc à l'autre micro jaune, puisque j'en détiens et je ne vais pas le lâcher, c'est Laurent, bonsoir à toi.
Bonsoir Delphine.
Et nous en avions parlé il n'y a pas très longtemps lorsqu'on avait parlé de cette lutte des AESH. Que nous avions envie de faire venir quelqu'une, en fait, pour vous parler à la fois du métier, de la lutte et des problèmes et de la réforme. Bonsoir à toi Léna.
Salut, salut.
Merci bien d'être venue. Alors, avec Laurent, au-delà donc de cette situation des anciens AVS, hein, puisque c'est la soirée des acronymes, nous allons parler de plein de choses. Alors, tu m'as fait, Laurent, un titre à rallonge qui s'appelle « L'hypocrisie, virgule, la bonne conscience mais l'inaction, deux points, Union européenne slash Turquie ». Et du prix Sakharov. Nous allons donc parler, entre autres. Nous allons revenir sur le Liban, puisque tu as souhaité en parler, mais je suis bien d'accord, puisque moi aussi. Nous allons donc nous battre pour parler des Libanais, des Libanaises ce soir. Nous irons faire un petit tour du côté du Maroc et nous parlerons des livres et plus précisément des libraires et des problèmes d'importation de livres. Et oui, c'est quand on a des ministères de la culture un peu particuliers dans les pays qui ne sont encore pas tout à fait démocratiques, pas tout à fait, s'il y a quelques problèmes après avec l'art. Nous irons en Espagne, puisqu'a priori tu as des nouvelles qui font plaisir, Laurent. Je parlerai de choses très anecdotiques qui vont tourner autour de l'idée de « il n'y a pas de petits profits, surtout dans l'art ». Nous aurons évidemment une rubrique sur l'énergie et l'environnement. Nous reviendrons sur la République en marche et puis sur la pollution de l'air. Et puis peut-être qu'on parlera d'autres choses derrière si nous avons le temps.
Mais on va ouvrir avec Léna qui va nous expliquer ce que voulait dire avant AVS.
C'est ça.
Et ce que veut dire aujourd'hui AESH. Et du coup, elle va en profiter pour se présenter.
Alors, du coup, AVS, c'est l'ancien acronyme du métier de assistant de vie scolaire, qui est maintenant devenu AESH, donc c'est assistant pour élèves en situation de handicap. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, on est des personnes qui aident les enfants en situation de handicap, en tout cas les élèves en situation de handicap à l'école. Donc école, ça peut être primaire, ça peut être collège, lycée, et même parfois en post-bac. Donc on est là pour les assister dans toute leur scolarité. Donc la grande mission qui a été mise en avant par Blanquer, je vous réexpliquerai ça par rapport aux réformes, c'est l'inclusion scolaire. Donc c'est pour un élève handicapé, comment il va pouvoir s'introduire et s'inclure dans un milieu social qu'est l'école, une classe, un groupe, d'autres élèves, d'autres enfants qui n'ont pas les mêmes spécificités. Donc du coup on les assiste en classe, pendant les cours, ça peut être de la lecture, de l'écriture. Parfois, on nous demande du tutorat par rapport à ces élèves-là en dehors des cours. C'est les suivre aussi sur toute une année, repérer, déceler des problèmes qui n'ont pas encore été dits par rapport au handicap en question. Donc voilà, normalement, on travaille en lien avec les parents, avec les instituteurs ou les professeurs, avec la vie scolaire, donc bien évidemment les CPE, donc les conseillers principaux d'éducation. On travaille normalement aussi avec les soignants, donc que ce soit psy, ergothérapeute, un peu tout ce qui est du milieu médical, pour avoir vraiment une vision d'ensemble sur ces élèves-là. Donc, du coup, le sujet maintenant, c'est que notre ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a passé des réformes. Donc l'année dernière, qui du coup change tout le mode de fonctionnement en fait de ce métier. Donc ça change pas les missions, mais c'est vraiment le mode l'organisation en fait administrative et puis sur les écoles.
Alors oui, moi j'ai une question juste pour arriver à mieux comprendre. C'est tu t'occupes de combien d'élèves? T'as un élève en particulier ou est-ce que tu peux avoir plusieurs élèves soit en même temps, soit au cours de l'année, hein? C'est une vraie question moi, qu'on m'a posée, donc je te la pose.
Alors, pour la plupart des AESH qui travaillent dans des écoles ou des établissements lambda, entre guillemets, comme on les appelle, on va travailler avec un élève un par un. Donc, ça va être plusieurs heures, par exemple, sur un élève. Par exemple, on va avoir 10 heures avec un élève de 6e. Ensuite, on va avoir 12 heures avec un élève de 4e. Et tout ça, c'est réparti sur la semaine.
Donc, ce qui veut dire que, évidemment, ce n'est pas plusieurs élèves que tu accompagnes en classe en même temps, c'est une personne. Mais par contre, tu peux avoir plusieurs personnes à gérer sur une même semaine, en fait.
Voilà, c'est d'accord. Ça. Ou alors, il y a aussi d'autres parties du métier qui sont, par exemple, les AESH qui travaillent dans des classes ULIS ou alors dans des établissements adapté comme le mien par exemple. Il y en a plusieurs en France ou même à Lyon où en fait on n'accueille que des élèves ou en tout cas une majorité d'élèves en situation de handicap. C'est des établissements passerelles en fait qui permettent de réinsérer dans la scolarité ces élèves-là mais dans un milieu plus adapté, qui va mieux les accueillir pour ensuite qu'ils puissent réintégrer des établissements normaux entre guillemets encore parce que bon, qu'est-ce que la normalité, on se pose tous la question mais voilà, donc ça peut être un élève par un élève selon les journées, les heures ou la semaine ou alors on peut avoir plusieurs élèves en même temps où avec eux on va plus travailler sur la socialisation, la vie de groupe, les choses comme ça. Donc voilà.
Donc pour revenir à cette réforme, est-ce que justement, par exemple, ça c'est un système qui est touché par cette réforme, ou est-ce que c'est quelque chose qui a amené la réforme, une complète transformation en fait, à la fois du métier, de l'encadrement, et puis aussi après des conditions de travail, des salaires, des contrats?
Et ben alors justement, du coup, cette réforme, elle touche pas vraiment les missions des AESH, donc c'est-à-dire que ça reste les mêmes. Donc celles qui sont imposées par l'État, c'est vraiment voilà l'accompagnement, le suivi en classe, les choses comme ça. Après, il y a la différence entre nos missions qui sont écrites dans nos contrats et puis la réalité, parce que c'est quand même beaucoup d'établissements où les administrations ou toute l'équipe de vie scolaire ou l'équipe éducative en fait ne laisse pas forcément leur place aux AESH. Et donc voilà, et du coup la réforme en fait ça modifie surtout le mode de fonctionnement, donc c'est-à-dire la place des AESH, comment ils vont être placés dans les établissements. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant en fait les AESH sont employés soit par l'établissement, soit par une commune, ou alors dans quelques cas par le rectorat directement, donc ce qui change pas grand chose, mais du coup on fait une candidature, on est employé par l'établissement, par le rectorat, on est assigné à un établissement où du coup on va travailler avec un ou plusieurs élèves sur cet établissement. La réforme de Blanquer en fait c'est qu'il va réunir plein d'établissements par pôle, donc par exemple à Lyon ça sera sûrement divisé en 4 pôles, donc Lyon Nord, Lyon Sud, Lyon Est, Lyon Ouest, ce qui va faire beaucoup d'établissements, et tous les AESH d'un pôle vont être gérés centralisé en fait, ce qui va faire qu'après on va nous répartir sur plusieurs établissements. Donc en tant qu'AESH, on va pouvoir faire par exemple 6 établissements en une semaine, avoir 10 gamins à suivre au lieu de 4, ce qui fait que nos conditions de travail elles sont quand même très lésées, et puis les conditions d'accompagnement pour les élèves aussi elles sont très très lésées. Donc faut savoir aussi que tous ces élèves qui sont en situation de handicap et qui du coup nécessitent l'aide d'un AESH en cours, en fait ça leur est notifié par la MDPH, donc c'est encore un acronyme, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Il y en a une par département et il faut passer par cette institution là pour être notifié d'une aide spécifique par rapport à un handicap qui du coup nous empêche quelques trucs dans la vie. Sauf que du coup, la MDPH, avec cette réforme, a reçu aussi des consignes d'attribuer moins d'heures en fait aux élèves. Donc, ils attribuent quelques heures d'AVS mutualisées. Donc, c'est-à-dire que ça réduit les heures. Ça va être un AVS quelques heures dans un cours, quelques heures dans un autre cours, tout ça. Donc, les élèves ne seront plus accompagnés de manière correcte parce que ça n'a pas été mis en place correctement sur les établissements pour l'instant. Donc du coup déjà ça réduit les heures et les postes des AESH qui sont calculés sur ces heures-là qui sont attribuées aux élèves. Et voilà, donc en plus avec l'épaule, ça fait que les enfants en fait vont voir défiler je sais pas combien d'AESH dans la semaine à leur côté, ce qui fait que pour la mise en confiance, le suivi, les choses comme ça, c'est des choses qu'on peut presque abandonner déjà en fait.
Est-ce que là il y a eu un mouvement de lutte il y a quelques semaines? Est-ce que il y a quand même quelque chose qui a été suivi? Est-ce qu'on sent qu'il y a quand même de l'inquiétude à la fois des professionnels qui font ce métier, mais aussi des professionnels qui travaillent avec vous, c'est-à-dire, je sais pas, les enseignants, justement, tous ces gens dont tu parles. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place, ou est-ce que c'est encore une de ces réformes qui va s'imposer brutalement et puis, malheureusement, on va la subir, hein?
Bah alors, pour l'instant, ça s'est plutôt imposé très brutalement, parce que en fait, la gestion des postes d'AESH, donc quand on dit les postes, c'est le nombre d'AESH dans tel établissement, ça va être les contrats, les fiches de paye, la répartition, les choses comme ça. Avant, ça se faisait par établissement, donc ce qui était plus facile pour gérer le peu de postes qu'on avait sur un établissement. Maintenant, en fait, tous les AESH de l'académie sont gérés par un seul bureau qui est constitué que de 4 personnes, qui bossent dans 15 mètres carrés et qui se retrouvent avec 1200 dossiers à peu près dans une pièce. Ce qui fait que, pour conséquence directe pour nous travailleurs, en fait, c'est que on n'a pas eu de contrat avant fin de septembre. La majorité n'ont pas eu de paye avant début octobre, et encore, c'était pas forcément des payes, c'était des acomptes. Donc
que tu es en train de nous dire quand même, pardon, je fais répéter, mais c'est que vous avez commencé votre année sans contrat de travail et sans certitude de paye.
Oui, c'est ça.
C'est quand même, c'est une allégation. Enfin, pardon, oui, alors, moi je trouve.
Hein, dans l'éducation nationale, c'est une habitude, hein, quand les nouveaux profs arrivent sur un poste, en général, ils sont pas payés avant le mois de novembre, hein, donc ils travaillent au début.
On parle pas de gens qui on parle pas d'un contrat de droit public d'État.
Alors justement, on n'a pas d'idée. On se dit, voilà, tu travailles dans un établissement scolaire. Les gens qui travaillent dans un établissement scolaire normalement sont des fonctionnaires de l'État. Vous avez quoi comme statut, les AESH?
Alors pour la majorité, on est contractuel. Du coup, on a notre contrat qui est signé par un établissement ou par le rectorat. Donc en majorité, c'est des CDD de 1 an, et du coup, dans la réforme, c'est maintenant des CDD de 3 ans. Sauf qu'en fait, ils délivrent que des CDD de 3 ans, mais jamais à temps complet. C'était ça un peu le but de la réforme aussi, c'est de nous dire, vous serez moins précarisés parce que du coup, ça durera plus longtemps. Mais en fait, ils délivrent presque aucun 100%. Et justement, du coup, les mobilisations qu'on a pu faire avec auprès du rectorat, auprès de tous les gens qu'il fallait, auprès des bureaux d'administration, tout ça nous a permis d'avoir encore cette année quelques contrats à temps plein, mais c'est vraiment pas la majorité.
Ouais, et moi j'avais entendu il y a quelques années, ils avaient parlé de CDIser une grande partie des AVS à l'époque. Toi, dans les gens que tu croises, il y en a beaucoup qui sont en CDI?
Alors non, en fait, quand on est AESH, on peut passer en CDI au bout de 6 ans de CDD.
C'est ça, ouais.
Donc, du coup,
à temps partiel.
Oui, temps partiel ou à temps complet dans les deux cas, du coup c'est au bout de 6 ans d'exercice du métier.
J'imagine qu'évidemment, comme il y a beaucoup d'abnégation, que c'est quand même un boulot qui est nécessaire dans notre société, vous êtes extrêmement bien payé.
Ah oui, évidemment.
J'imagine que le salaire est voilà. Alors, non, je voulais quand même qu'on précise, parce que nous on a quand même pas mal discuté avec toi de ce travail, de ce métier. Tu fais partie de ces gens quand il faut être volontaire. Enfin, quand même, moi je trouve. On travaille avec des êtres humains, donc là aussi il faut être assez volontaire, il faut être présent, et on propose un SMIC finalement.
Oui.
C'est toujours assez indécent.
C'est bon.
Après, ça fait partie de la réforme aussi, de nous dire qu'on va avoir des nouvelles grilles de salaire sur l'évolution, donc grilles qui sont applicables qu'à partir du moment où on est CDIsé, donc au bout de 6 ans et pas avant. Et c'est des grilles qui nous augmentent de 4 euros par an, donc c'est vraiment pas beaucoup, quoi.
Et toi, dans les gens que tu croises, alors je voulais te poser deux questions sur les perspectives, on en parlera peut-être après. Dans les gens que tu croises, tout le monde vit un peu ça de la même manière, où il y a des gens qui sont très contents de faire ça, qui perçoivent pas du coup le côté un petit peu violent de la réforme. Toi, tes collègues de travail, toi.
Alors, je pense que tout le monde le vit de manière un peu violente, que ce soit plus ou moins, parce que les situations sont différentes. Mais je pense que c'est un métier qui, même si on commence par le faire, même si on commence à l'exercer pour une raison qui soit alimentaire, donc juste par rapport à une paye, parce que c'est un métier qui est facile d'accès aussi. On nous donne aucune formation, on ne demande pas d'avoir de diplôme au-dessus du bac, et encore maintenant, on peut aussi faire des dérogations pour exercer ce métier sans le bac, mais j'ai oublié les questions.
Non, mais pour savoir si tout le monde était, il y avait une cohérence. En fait.
Tu sentais
que c'était vraiment généralisé le malaise.
C'est là où je voulais en venir. En fait, de toute façon, on exerce ce métier, qu'on commence ou pas dans cette optique-là, on l'exerce par, on le fait au bout d'un moment aussi par passion et parce qu'on aime faire ce qu'on fait, en fait, parce qu'on accompagne, comme tu disais, des êtres humains, et même si c'est pas les plus faciles, c'est ceux qui ont aussi le plus besoin d'aide, et puis c'est un petit peu notre avenir, et puis c'est quelque chose qui est quand même fondamental dans la société, de pouvoir scolariser tous les enfants et tous les élèves, même s'ils sont handicapés, et surtout s'ils sont handicapés, c'est un droit fondamental, et c'est toujours un petit peu ceux qui sont oubliés et mis de côté. Donc de toute façon, oui, nous on exerce ça parce qu'on le veut, en fait, on veut faire ce métier. Mais après, oui, c'est violent, parce que même si certains, même si dans leur vie certains n'ont pas énormément de répercussions par rapport au retard de salaire, parce que des fois on est jeune, on vit encore chez nos parents, mais bon, c'est quand même assez rare aussi. Pour la plupart, c'est très 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 compliqué. C'est des retards de paye monstrueux, c'est des agios de banque qui seront jamais remboursés, c'est des fiches de paye et des contrats non disponibles pour les demandes ou les déclarations à la CAF ou pour les déclarations d'impôts, les choses comme ça. Donc ça engendre des complications dures et violentes pour des gens qui sont mères de famille, pères de famille, qui ont pas mal d'autres choses à gérer à côté. Donc si, c'est violent dans tous les cas. Parce qu'on n'a pas de reconnaissance. Donc
c'est ce que j'avais demandé sur la reconnaissance. Et on parlait à la fois de manque de reconnaissance, d'abnégation. Moi, je me demandais, par exemple, demain t'es malade, tu vas pas être remplacé, j'imagine, sur ton poste. Donc ça veut dire qu'on a des élèves qui restent seuls, sans être remplacés.
Il faut savoir que il manque d'AESH, hein. Ils arrivent pas à remplir.
Bah ouais, en même temps, quand on prend au SMIC et à temps partiel.
Bah oui, mais parce que voilà, le contrat est quand même précaire. Tout ça. Alors là, il y a eu une lutte. Est-ce qu'il y a des perspectives derrière? Est-ce qu'il va se renclencher des choses?
J'espère, parce que après c'est pas non plus une lutte qui est facile à développer, parce que c'est un métier qui est, comme je disais, où on n'est pas vraiment reconnu en fait dans ce qu'on fait, ni toujours par nos collègues, ni forcément même par les parents d'élèves des fois. Enfin, je pense que c'est même ceux qui sont le plus reconnaissants et qui sont au plus près de nous, en fait. Mais en fonction des établissements, non, les collègues sont pas forcément toujours là, les directions sont pas forcément toujours là non plus pour nous soutenir. Donc ça, c'est assez compliqué. Et puis on n'est pas non plus énormément, quoi. C'est pas un métier où, c'est pas une majorité en France, quoi, comme métier. Mais après, oui, les collègues se mobilisent quand même, parce qu'ils se rendent bien compte que dans pas mal d'établissements, sans nous, ça peut pas fonctionner. Un prof ou un instit qui est tout seul dans sa classe avec un élève à trouble du comportement, s'il n'y a pas l'AESH à côté, il sait plus quoi faire.
Voilà.
Quoi.
Parce qu'on n'a pas, dit sur le handicap, c'est pas quelqu'un qui est forcément en fauteuil roulant, super handicapé, qui peut rien faire. Le handicap, ça part des 10, hein, les dyslexiques, dysphasiques, dysorthographiques, tous ces trucs-là, qui nécessitent pas toujours un AESH, mais qui, dans les formes extrêmes, nécessite quelqu'un pour aider à la prise de notes ou à d'autres choses, à la compréhension, à plein de choses. Et ça va effectivement jusqu'à des cas de très très lourds handicaps. Mais je pense que la majorité des AESH sont dans des cas pas ultra lourds, puisqu'on est, alors toi dans ton établissement-ci, mais dans l'école inclusive que veut Monsieur Blanquer, là où il fait un grand discours en disant on va accueillir les handicapés, il n'entend pas accueillir les cas les plus extrêmes, c'est les personnes qui peuvent, parce que tous les établissements sont pas accessibles au fauteuil, enfin voilà, ça reste compliqué, les établissements scolaires. Et je sais plus ce que j'allais dire, du coup, voilà.
Mais
le handicap, c'est un truc très large, quoi.
En fait, ouais. Ces personnes-là, donc oui.
Et du coup, ça peut concerner en fait tout un chacun. C'est pas parce que on n'a pas quelqu'un qui est polyhandicapé que un jour un enfant n'a pas besoin d'une aide, parce qu'on va découvrir qu'il est dysphasique ou des choses comme ça, des handicaps comme ça ou des problèmes comme ça, parce qu'on sait pas bien de même physique, même médicalement, de quel ordre c'est. Et du coup, c'est le discours contradictoire du ministre, hein, qui parle de l'école inclusive et qui met pas les moyens. Est-ce que c'était déjà le discours de l'époque, puisqu'on rappelle, historiquement, c'est Jacques Chirac, hein, qui a dit il faut intégrer les handicapés dans les établissements scolaires classiques. C'est à partir de là, alors qu'avant, ils étaient systématiquement dans des établissements spécialisés. ça a discuté un petit peu parce que tout le monde n'était pas d'accord sur le fait d'inclure, et je pense que c'est, il y a une logique, il y a deux cas qui se présentent, ceux qui peuvent être intégrés dans une école et ceux qui sont dans des situations bien trop extrêmes pour que ça marche. Mais du coup, ni à l'époque et ni aujourd'hui, ils ont jamais mis en fait les moyens avec des personnes formées. Alors là, c'est un truc hallucinant. Moi, je suis enseignant, donc je sais de quoi je parle. On est obligé, on a des choses à faire avec des élèves en situation de handicap, et personne, ni les profs, ni les AES, ni avant les AESH, ni les AVS, n'ont été formés sur ce que c'est que ces maladies, que ces handicaps, que ces dysfonctionnements, que ce soit du cerveau ou du corps humain. Et du coup, tout le monde improvise un petit peu et fait de son mieux. Et il y a quand même une énorme carence dans le système éducatif de refuser de former les personnels quand même.
Ah bah bien sûr, puis ça fait partie aussi de comment ils ont mis les choses en place. C'est-à-dire que nous, qu'on soit AESH ou AED, on nous donne une seule formation qui en gros est équivalente à 60 heures, donc ça fait 4 journées à peu près, il me semble, où en fait, pendant cette formation, tout ce qu'on fait, c'est nous répéter à peu près nos missions, ou alors du coup c'est sur une assemblée qui va poser des questions plus personnelles sur des cas de certains élèves, avec des gens en face qui sont eux-mêmes pas formés au handicap en fait, et qui ne peuvent pas répondre à des questions spécifiques. Donc du coup c'est une formation, enfin en fait concrètement, qui sert à rien. Donc ça aide personne, et puis effectivement les enseignants sont encore moins formés sur ces choses-là, et les formations auxquelles vous avez accès sont assez loin, quoi. C'est compliqué aussi de les voir, quoi.
Ouais. Alors on va peut-être terminer avec Léna maintenant. Est-ce que tu voudrais dire autre chose qu'on n'a pas dit sur la lutte, sur comment tu vois des perspectives?
Sachant que tu as le droit de revenir.
Si
jamais tout n'est pas dit
non,
ce soir,
tu
auras évidemment le choix.
J'ai à peu près tout dit, en fait, donc il n'y a pas de souci. Après, moi j'aimerais juste préciser, si jamais il y en a qui nous écoutent, que vraiment le soutien le plus précieux, c'est d'abord les parents d'élèves, parce que je pense que c'est eux qui s'en rendent compte le mieux, que pour nous c'est trop compliqué. Si c'est compliqué pour nous, ce sera de toute façon compliqué qui est pour les enfants, et c'est fondamental qu'ils puissent être là, ces enfants-là. Donc vraiment, on a besoin de soutien, quoi. Ouais. On a eu des mobilisations, il y a les syndicats qui sont un petit peu derrière nous aussi, mais après voilà, enfin parlez-en, et puis reconnaissez le métier, quoi, si vous pouvez et que vous êtes dans le milieu.
Voilà. Donc, voilà. Il y a des grosses grèves qui vont arriver au mois de décembre, même si c'est pas la raison principale. On va pas parler des AESH, des choses comme ça, mais c'est l'occasion de mettre un coup de boule au gouvernement.
Sûr, parce que ça fait partie de la précarisation de beaucoup de métiers en France, donc.
Merci.
Oui, on va poursuivre, on va parler un petit peu d'international pour commencer. Alors on aurait pu parler de ce qui se passe encore à Hong Kong, parce que c'est pas fini, la lutte. Il paraît qu'il y a des vilains et des vilaines habillés en noir qui jettent des trucs sur la police. J'aime bien quand je lis la presse bourgeoise, oui, moins bourgeoise, et parfois de gauche française, qui s'émeut de ces radicaux de Hong Kong qui s'en prennent à la police. C'est marrant parce que, en fait, j'ai l'impression que la police s'en prend plutôt aux Hongkongais. On aurait pu parler du Chili et de la Bolivie, mais il y a des gens qui le font mieux que nous, donc on va pas le faire. Donc on va parler de ce sujet au titre à rallonge, si tu veux bien, Laurent.
Oui, alors mon idée, c'était l'hypocrisie, la bonne conscience, mais l'inaction, avec deux petites infos qui vont être très brèves. Aujourd'hui, le Parlement européen a voté une résolution à main levée en estimant que l'intervention militaire turque en Syrie représentait une violation grave de la législation internationale et qu'elle compromet la stabilité et la sécurité de la région dans son ensemble. Donc grosso modo, les eurodéputés rejettent l'intervention turque, rejettent la création de la zone de sécurité où on vire les Kurdes et on y met des Syriens en attendant. Ils rejettent tout ça. Le truc, c'est que, en fait, c'est juste symbolique. C'est juste pour se donner bonne conscience, parce que il n'y a aucune action qui va être mise en place derrière. Il y a des moyens de pression énormes, contrairement à ce que disent certains élus de l'Union européenne, puisqu'on a des accords commerciaux avec la Turquie, on peut les faire tomber du jour au lendemain, on peut les bloquer. Il y a des moyens de pression. Le problème, c'est qu'ils sont tous sensibles aux moyens de pression que la Turquie met sur l'Europe avec la question des réfugiés, et comme ils sont tous un poil racistes et qu'ils aiment pas les réfugiés, ils se plient aux desiderata de la Turquie. Donc c'est une condamnation symbolique et ridicule. Et le seul, finalement, qui a été percutant et presque drôle, et c'est triste de le dire, c'est un député facho, puisque un député de la Ligue italienne, donc l'extrême droite, groupe de Salvini et compagnie, il est arrivé, il a balancé au centre de l'hémicycle une boîte de chocolat qui avait été offerte par les autorités turques lors d'une précédente réunion du Parlement pour parler de l'adhésion de la Turquie. Il y a que lui qui a eu ce geste un peu symbolique en disant « Regardez, la Turquie, elle nous achète ». Et les autres ont tous baissé les yeux et rien dit. Voilà, c'est juste le ridicule, alors qu'il y avait des moyens de pression importants. Et dans le même style de truc où l'Union européenne a des moyens même de faire des choses, et elle le fait pas. Alors on va parler d'Ilham Tohti, c'est un Ouïghour. Enfin, c'est quelqu'un qui, c'est un intellect Ouïghour. Donc les Ouïghours, ce sont des Chinois qui sont musulmans, qui sont dans une province qui s'appelle le Xinjiang, et qui sont martyrisés, massacrés, mis dans des camps par l'État totalitaire chinois. Le Parlement européen aujourd'hui a remis un prix, le prix Sakharov, à ce dissident Ouïghour qui est en prison parce que il a eu des propos que la Chine estime comme étant un soutien au séparatisme et un soutien au terrorisme extrémiste, pour reprendre les paroles du régime de Pékin. Donc voilà, c'est un truc encore symbolique avec le prix Sakharov, et bien évidemment il y a des moyens de pression sur la Chine, et bien évidemment on fait pas. Donc c'est une nouvelle fois, les politiques et l'Union Européenne est spécialiste de ça, on se donne bonne conscience en disant on soutient ce pauvre dissident Ouïghour qui est dans les geôles chinoises, mais on n'ira pas plus loin que ça. On rappelle quand même que les images satellites sont très impressionnantes, des camps, une sorte de camp de concentration. Alors ça voilà, le terme est peut-être pas le bon, enfin en tout cas camp de prisonniers, camp de redressement, camp de tout ce que vous voulez, qui existe au Xinjiang, et dans lequel il y a des centaines de milliers de Ouïghours emprisonnés par la dictature chinoise. Alors, on reste en international, on va au Liban. Alors le Liban, ça a cartonné. Ça cartonne beaucoup. Pas mal de mois d'austérité sur cette année. Une situation économique très compliquée, voire désastreuse. Alors des problèmes totalement lié au libéralisme, avec un manque de dollars, ce qui fait chuter la monnaie libanaise, et ça complique la vie des Libanais. L'essence augmente, le pain devient cher aussi, des coupures d'eau, d'électricité. Et suite à ça, le gouvernement a essayé de prendre des mesures, et les mesures que le gouvernement a prises, c'est des taxes, notamment cette fameuse taxe WhatsApp. C'est sur une application qui permet d'échanger, de dialoguer sur...
Toi, tu sais pas ce que c'est, si, nos auditeurs, nos auditrices, ouais, le savent, mais je sais. Certainement.
Et alors, ça a énervé toute la population, sans oublier les frasques du premier ministre qui s'appelle Saad Hariri. Oh,
tout de suite, il donne des millions à une femme.
16 millions de dollars donnés à
tout de suite la critique
à une mannequin sud-africaine qu'il draguait ou avec qui il était. Enfin, j'ai pas tout, je m'en fous du côté people. Mais ce mec qui est millionnaire donne 16 millions comme ça à une personne, alors que c'est la catastrophe économique dans son pays. Ça a rajouté une dose d'énervement chez les Libanais, et les Libanais sont sortis massivement dans les rues. Donc la taxe au WhatsApp a été le déclencheur, mais c'est voilà un ensemble de problèmes que subissent les Libanais et les Libanaises depuis de nombreuses années.
Il faut se rappeler des mobilisations sur les poubelles et sur les déchets, donc c'est pas nouveau. Là, il y a une nouvelle mobilisation, mais enfin, on avait quand même connu de fortes mobilisations sur cette incapacité du gouvernement.
Voilà, on rappelle que le Liban, c'est une démocratie, mais c'est une démocratie un peu compliquée, encadrée, où telle communauté a droit à tel poste. Enfin voilà, c'est un système.
C'est le pacte national, et ça s'appelle une démocratie consensuelle.
Voilà, c'est histoire que ça pète pas, parce que le Liban, c'est une sorte de chaudron avec je sais pas, presque une vingtaine de communautés, 18 communautés religieuses, et chacun se définit par rapport à la communauté religieuse. Alors si vous êtes anarchiste au Liban, c'est super compliqué parce que ça existe pas dans les communautés officielles, et ça reste galère, hein, d'ailleurs. Pour les gens de gauche d'ailleurs au Liban, qui mettent la politique et les idées politiques en avant et pas le côté communautariste, ça reste très compliqué. Alors suite à ça, donc vous avez vu, je pense, il y a des manifestations importantes qui ont été relativement violentes, hein, dans certains endroits, pour dénoncer ce néolibéralisme, hein, et les politiques néolibérales qui ont été mises en place depuis une trentaine d'années par cette collusion, hein, de gouvernants, on va dire, issus des différents partis qui sont reconnus. Voilà. Le Hezbollah étant le dernier rentré, hein, puisque avant ils n'avaient pas le droit, il y a eu une modification et ils sont rentrés. Et justement, on va parler un peu du Hezbollah, parce que le Hezbollah, typiquement, c'est le représentant des pauvres, des chiites pauvres qu'on trouvait dans le sud du pays ou dans le sud de Beyrouth. Et le Hezbollah, après 8 jours de manifestation, a eu une attitude hyper ambiguë face à la mobilisation des Libanais. Bref, tout le monde se pose la question, est-ce que le Hezbollah est avec les manifestants et leurs revendications, ou est-il avec le pouvoir, puisqu'ils sont au pouvoir? On rappelle, il y a une personne du Hezbollah qui dirige, qui est dans le gouvernement. Et en fait, Hassan Nasrallah, donc le dirigeant du Hezbollah, a fait des commentaires hyper ambigus. Donc même lui, il y va pas jusqu'au bout. Alors il faut préciser que dans le discours de Nasrallah, il fait à la fois un appui au pouvoir et au gouvernement, et il dit qu'il comprend quand même les manifestations. On se dit, bon, là, à un moment, le grand écart, ça va pas marcher. Alors, il faut savoir que le Hezbollah a été visé à travers certains de leurs élus. On a eu une permanence d'un des élus de Hezbollah qui a été attaqué par les manifestants. Donc, le Hezbollah, qui construit toute son idéologie politique sur les victoires qu'il fait à l'étranger, notamment en Syrie, avec l'aide de l'Iran, se trouve à être confronté à un truc qu'il ne maîtrise pas du tout. Alors, faut dire que le Hezbollah, historiquement, c'est né dans ces quartiers pauvres, c'est un parti ultra religieux, et que le système économique, les banques, tout ça, ils le maîtrisent pas du tout, et surtout, ils ont pas de connaissances dedans. Ce qui limite leurs moyens d'action. Donc, on en est là aujourd'hui, personne ne prend de décision importante et se positionne correctement dans le gouvernement, donc y compris le Hezbollah. Alors on a eu aujourd'hui le président de la République, le président du Liban, qui est l'ancien général Aoun. Alors ça aussi, qui, on rappelle, s'est présenté allié au Hezbollah il y a quelques années, alors que lui, il est représentant plutôt chrétien, d'ailleurs dans la guerre civile, il était dans les milices chrétiennes, celles qui ont massacré tout ça. Et donc il a fait une première prise de parole après 8 jours de manifestation, parce qu'aujourd'hui il y a encore eu de grosses mobilisations. Et il a dit, je cite, qu'il appelait à une remise en question de la situation du gouvernement, mais ce n'est pas la rue qui va nous faire changer de système politique. Alors il laisse entendre que finalement les manifestants vont avoir assez peu d'influence. Donc il a appelé son premier ministre Saad Hariri, le fameux millionnaire qui donne de l'argent à des top modèles, de faire quelque chose. Et effectivement, plusieurs pistes de sortie de crise sont envisagées. Un remaniement du gouvernement pour sortir les ministres qui ont été les plus conspués par la rue. La création d'un comité de pilotage avec des experts, voire peut-être des élections anticipées. Bref, on sait pas bien. Et Hariri est pas clair dans son discours sur ce qu'ils veulent faire réellement pour sortir de la crise. Il faut dire qu'ils veulent pas remettre en cause le système libanais, ni la répartition politique, parce que ça c'est trop compliqué, puis c'est trop dangereux, ni surtout la politique, parce que à travers le communautarisme qui existe au Liban, il manque des partis qui se présentent avec des idées politiques. On classerait celui-là à gauche, celui-là au centre, celui-là à droite, celui-là à l'extrême gauche, celui-là à l'extrême droite, etc. Comme il n'y a pas ça, ça complique beaucoup la donne. Et du coup, ça permet aux politiques néolibérales d'avancer tranquille, peinard, et c'est toujours ce qui s'est fait au Liban, à travers Hariri, qui est un capitaliste qui représente l'autre partie des musulmans libanais. Donc on en est là aujourd'hui, les manifestations sont toujours là. On n'a pas de position claire de personne et on va attendre ce qui se passe d'ici quelques jours en espérant qu'il y aura une vraie réaction. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est comme après la crise des ordures, au bout d'un moment, les Libanais se fatiguent et puis 6 mois après, ça redémarre.
Ouais, je vais en rajouter une couche parce que j'avais envie. Donc depuis le 17 octobre dernier, on entend les mots corruption, clientélisme et incompétence, c'est des mots qu'on entend assez souvent au Liban concernant cette classe politique dont tu parlais à l'instant. Ce système confessionnel, il y en a qui veulent sa mort quand même, parce qu'ils disent justement c'est plus possible. Tu parlais du président, il est forcément maronite. Enfin, je vous imaginez quand même. Des gens qui, vous pouvez pas être président, bon ça sert un peu à rien au Liban, mais vous pouvez pas être premier ministre si vous êtes pas d'une certaine confession, c'est pas possible. Donc les gens ont arrêté. Mais les gens ont arrêté d'aller voter. Aux élections locales. En plus de ça, on sait qu'il y a une forte mobilité au Liban, c'est-à-dire que les gens sont inscrits dans des villes ou des villages alors qu'ils vivent à Beyrouth, donc du coup se déplacent, et puis on arrête de se déplacer parce que c'est chiant, et puis de toute façon cette vie politique elle les ennuie, dans lequel ils n'ont pas la place, parce que cette démocratie, bah, elle n'existe qu'à moitié. Il y a donc ce système qui ne fonctionne plus.
Surtout que le représentant de votre communauté, il peut être un moment avec des idées plutôt de gauche et un moment avec des idées plutôt de droite, et vous continuez de voter pour lui parce qu'il est de votre communauté.
Et voilà, et donc
il n'y a pas de cohérence.
Il y a eu vraiment maintenant une très faible participation, ce qui fait que la dernière fois, aux dernières élections, alors qu'il n'y en avait pas eu pendant très longtemps parce qu'il y avait eu un blocage, il faut se souvenir de ça, hein, personne n'arrivait à avancer au Liban non plus, hein, c'est un peu comme la Belgique.
Oui, ils étaient restés sans que ça fonctionne.
Et voilà, ça, bon, et évidemment, rien ne se passait mieux ou pire qu'avant, mais en tout cas, le pays n'a pas progressé. Ce qui a permis évidemment, comme tu disais, au libéralisme d'installer. Il y a des gens qui font de belles fortunes aujourd'hui au Liban, ou ailleurs d'ailleurs, mais en tout cas qui en profitent bien. Et le système là est en train de se casser la figure, à la fois parce que les gens ne vont plus voter, parce qu'ils sont dans la rue à chaque fois. Tu parlais de l'électricité tout à l'heure, c'est un problème récurrent. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, vous ici à Lyon, votre électricité, elle s'arrête trois fois dans la journée quand même.
Ouais, alors les gens qui ont les moyens ont des groupes électrogènes qui se mettent en route, ça fait un brouhaha pas possible, c'est compliqué.
Voilà. Alors, dans les propositions de M. Hariri, c'est justement d'ici 4 mois d'avoir des licences pour la construction de nouvelles centrales électriques, parce que c'est un problème dont on parle depuis 20 ans et que, évidemment, il y a eu des conflits au Liban, évidemment. Donc, le pays essaie à chaque fois de se relever de ces conflits. C'est pas simple. Il paraît contre la corruption, il va y avoir une autorité nationale de lutte contre la corruption. Mais étant donné que tout le système repose sur ça, ils vont mettre quoi? Les gens corrompus à l'intérieur de l'autorité? Enfin, moi, ça me.
C'est là où le Hezbollah est compliqué et coincé, c'est qu'ils ont fait de leur arrivée au pouvoir, la lutte contre la corruption, un des trucs principaux. Ils se retrouvent associés à ce gouvernement qui est corrompu en partie, alors que le Hezbollah se bat contre la corruption. Et une partie de leurs militants trouve qu'entre la collaboration et l'amitié, tout ça, et ce qu'on accepte, et ben c'est plus possible.
Ouais, et puis en plus de ça, il faut se rendre compte que la corruption, elle s'est pas du tout arrêtée, elle s'est même développée. Pourquoi? Alors c'est plus la même. C'est qu'il y a maintenant, on a une corruption qui, et puis il y a des politiques qui récupèrent l'argent aussi des Libanais, des Libanaises. L'air de rien, je le dis un peu synthétiquement, mais c'est quand même ça. C'est parce qu'avant il y avait quand même des partis, l'Iran qui soutenait le Hezbollah, puis l'Arabie Saoudite. Avec la famille Hariri, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Ce qui fait qu'on se retrouvait aussi avec de l'argent qui arrivait et puis qui pouvait permettre cette corruption et puis qui pouvait permettre aussi ce système de rétrocommission qui a permis à la classe politique de profiter de beaucoup d'argent aussi sur les marchés publics. Donc là, en même temps, aujourd'hui, on a l'Iran et l'Arabie Saoudite qui sont en train de s'affronter ailleurs. Donc il y a de l'argent, il y en a moins au Liban. Donc le système des politiques, c'est qu'il y a d'aller gratter de l'argent sur place et plus forcément sur l'argent qui venait d'ailleurs pour les soutenir, pour maintenir certaines aussi influences sur place. Le Liban, ça a toujours souffert aussi de ça, d'un manque d'indépendance aussi avec les problématiques de la Syrie décennie après décennie continue. Aujourd'hui, le Liban a accueilli beaucoup de réfugiés.
Oui, la Syrie est quand même beaucoup moins présente politiquement qu'il y a quelques années.
Non, mais il y a une crise interne parce que il y a des gens qui trouvent qu'il y a trop de Syriens, trop de réfugiés. C'est toujours la même problématique. Donc en fait, toujours est-il que au quotidien, il y a des problèmes de poubelles, des problèmes d'électricité et que c'est une vraie galère pour les Libanais de se déplacer, de bouffer, simplement aussi d'arriver à avoir un logement à peu près décent. Parce qu'il y a quand même des quartiers qui sont des bidonvilles autour de Beyrouth.
Notamment le sud de Beyrouth Sud, là, les quartiers les plus pauvres, d'ailleurs où le Hezbollah est très implanté, puisque c'est les quartiers qui ont été négligés volontairement par notamment Hariri et toute sa bande, puisque son père était déjà au pouvoir avant. C'est une sorte de monarchie chez les Hariri. On va parler un petit peu du Maroc maintenant.
Oui,
de livres.
Oui, alors du Maroc et des livres et des libraires et des ministères du ministère de la Culture et de la Communication. Alors il y a eu un remaniement ministériel le 9 octobre dernier, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais enfin voilà. C'est l'occasion d'en causer. Et ça a amené quelques modifications et ça a des conséquences assez importantes, dont des conséquences pour les libraires. Alors il faut savoir que, je vous le disais tout à l'heure, c'est marrant, c'est une démocratie en devenir aussi.
Le Maroc, c'est une vraie dictature.
Hein, voilà. Je voulais que tu le dises.
C'est un régime avec un roi qui a quand même beaucoup de pouvoir.
C'est une monarchie. Donc on a quand même un système qui est un peu vieux dans certains fonctionnements. Et il faut savoir que pour faire venir des livres au Maroc, il faut un visa. Ce visa, il est délivré par le ministère de la Communication, qui vient d'être supprimé. Donc les libraires n'arrivent plus à faire entrer d'ouvrages au Maroc. Ce qui est problématique. Alors vous allez me dire, ils ont qu'à avoir des ouvrages qui sont produits que chez eux, chez elles. C'est trop facile de me dire ça. Nous-mêmes en France, je vous regarderai, ils sont produits en Italie, les livres. Donc voilà, on réfléchit deux secondes et on évite d'avoir des raccourcis de ce type. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de stock dans les librairies. Alors jusqu'à présent, ça sent pas trop, si vous voulez, parce que c'est encore très récent, qu'on se dit que voilà, ça date du début du mois d'octobre, qu'ils ont pas tous eu, ils ont pas de visa, et puis les premiers avaient encore quelques trucs tamponnés, donc ils ont pu faire entrer quelques ouvrages. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même dans les établissements scolaires, on manque d'ouvrages, puisque les élèves n'arrivent même pas à suivre les listes des enseignants qui, malheur, leur ont donné des tas d'ouvrages chiants à lire. Ils peuvent pas aller les acheter. C'est une bonne excuse pour éviter de lire des trucs chiants. Mais voilà, on se retrouve avec, non, je rigole, excusez-moi. Mais on se retrouve aujourd'hui avec des libraires qui sont en difficulté économique et puis qui savent pas bien comment ça va se passer parce qu'il n'y a aucune perspective de voir un nouveau ministère de la communication et de la culture revenir demain. Il paraît que les fonctionnaires ils tournent en rond dans les bureaux, qui savent pas quoi faire parce qu'ils ont été livrés à eux-mêmes. Alors là l'idée c'est évidemment de s'unir et puis de réclamer le retour du ministère, alors surtout la fin des tampons. Ça, ça serait super.
Oui, parce qu'ils puissent importer tous les livres tranquilles.
Mais j'ai l'impression que c'est qu'un souhait, que c'est pas la revendication première. La revendication première, c'est plutôt qu'il y ait un retour à la normale. Alors, ils pourraient. C'est là où on se rend compte que quand même, il y a toujours le danger dans la culture. C'est que c'est une compétence qui pourrait revenir à un autre ministère. Et je vous le donne en mille, le ministère de l'Intérieur.
Voilà, c'est toujours bien là. Mais pour la censure, c'est efficace,
le contrôle, c'est parfait, le ministère de l'Intérieur. Donc, évidemment. On ne sait pas hein, pour l'instant, mais ça inquiète un petit peu les libraires, quand même, cette problématique. Voilà, je ne peux pas vous en dire bien plus pour l'instant. Alors, ce qui, évidemment, il y a une conséquence majeure, dont je parle à chaque fois que je parle d'ouvrages, de livres et de libraires dans cette émission, c'est que les gens achètent autrement, avec un autre moyen où il n'y a pas besoin de tampons. C'est la vente en ligne, et qui sait ? Je vous le donne en mille encore une fois.
Amazon qui s'en sort bien.
Voilà. Et on va terminer avec ça.
Comment Amazon peut profiter des dictatures? C'est pas mal. Voilà. On poursuit avec une info que j'avais appelée, c'est symbolique mais ça fait plaisir. On va parler du dictateur Franco, vous savez, cette horreur qui a dirigé l'Espagne d'une main de fer de 39 jusqu'à 1975, l'année où il est mort, et qui a tué donc des milliers de républicains et de résistants. Donc il a été exhumé aujourd'hui de son mausolée monumental près de Madrid, 44 ans après la fin de son régime totalitaire, du régime qui continue de diviser un petit peu les Espagnols dans leur ensemble. Le cercueil contenant sa dépouille a été donc sorti, alors il est embaumé dedans, vers 11h ce matin, du mausolée là qui s'appelle Valle de los Caídos, une espèce de truc horrible. C'est absolument unique en Europe d'avoir un mausolée comme ça, un monument donc à la gloire d'une horreur, d'un dictateur sanguinaire si l'on est. Et oui, ça arrive en Espagne. Et alors là, donc ils l'ont enlevé. Il était porté par 8 membres de sa famille, dont son arrière-petit-fils, qui s'appelle Louis de Bourbon, qui est un des imbéciles royalistes qui prétend au trône de France, hein, mais qu'on espère voir disparaître vite, donc puisqu'il c'est un cousin éloigné du roi d'Espagne. Donc voilà, ce qui nous rappelle que les royalistes français restent aussi très très amis avec les mouvements d'extrême droite, qu'ils soient ici ou à l'étranger. De toute façon, le royalisme est un mouvement d'extrême droite. Bon, bref, les descendants de Franco ont crié « Vive l'Espagne !» Voilà. La dépouille a été emmenée par un hélicoptère au cimetière où il va reposer, là où est déjà le cadavre de son épouse. C'est à Mingo Rubio, dans le nord de Madrid. Et là, 200 petits fachos nostalgiques de la dictature de Franco attendaient l'arrivée de l'hélicoptère malgré l'interdiction par les autorités de ce rassemblement qui tient lieu de cérémonie. Et bien sûr, un office religieux a été célébré, c'est intéressant, par le fils d'Antonio Terrero, qui est donc prêtre, qui est Antonio Terrero, il a été auteur d'une tentative de coup d'état en 81, parce qu'il voulait restaurer la dictature, et son fils donc vient célébrer cet office religieux du nouvel enterrement de Franco. Ce qui nous rappelle que l'Église catholique espagnole appréciait et apprécie toujours, elle aussi, le dictateur sanguinaire et est nostalgique dans sa grande majorité de la dictature qui avait été mise en place avant par le général Franco et d'une nouvelle dictature. Alors dans les faits, on rappelle que c'est le premier ministre socialiste Pedro Sanchez qui avait fait du transfert de la dépouille du dictateur une priorité. Alors c'était en juin 2018, ça a été un peu long parce qu'il y a eu moult recours de la part des amis de l'extrême droite tout entière. Alors même si elle n'est pas super forte en Espagne c'est un peu compliqué. L'extrême droite se retrouve pas mal dans la droite traditionnelle, qui est une droite très à droite, on va dire, puisque une partie de la droite, du parti de droite espagnol, soutient toujours c'est franquiste, c'est nostalgique du franquisme. Donc voilà, c'est symbolique d'avoir viré ce mausolée et d'avoir enlevé Franco de là-bas, mais c'est toujours un symbole important d'enlever les fachos et de les mettre dans un endroit plus discret.
Alors on va faire deux sujets maintenant dont vous pourriez vous passer dans votre vie future, mais on va parler d'art et on va parler de profit et donc de capitalisme, donc ça reste important. Alors il y a des choses en ce moment qui sont mises aux enchères, et alors c'est là où on voit que l'humanité quand même progresse. Il va y avoir aux enchères de la maison de vente Julian's Auction, c'est demain 25 octobre et le 26 octobre, hein, les deux jours qui arrivent, 700 objets d'artistes du rock'n'roll qui vont être vendus. Donc on a une veste de Michael Jackson, il y a des guitares de Elvis Presley, puis il y en a même qui sont vivants, des trucs de Madonna, enfin bon, Paul McCartney, tout ça. Et puis alors il y a un objet très particulier qui fait causer, parce que je pense que si Kurt il pouvait se retourner dans sa tombe, ce qu'il peut pas, ben il le ferait. Hein, alors Kurt Cobain, le grunge, ça vous parle?
Le grunge, tu veux dire?
Ouais, Nirvana, ouais, tout ça, ça vous pose.
De Nirvana, oui.
Iconique, bien évidemment. Il a en 93 enregistré un concert très célèbre, parce que ça avait été enregistré par MTV et donc on en a la trace, ça s'appelle Unplugged.
Ouais.
Ça vous parle?
Magnifique concert.
Magnifique. Et lors de ce concert, Kurt portait un gilet en laine vert olive, nous précisons, dans la présentation. Donc
un gilet pas très beau quand même.
Non, mais en fait, Kurt était toujours quand même pas très bien habillé. C'est le principe du grunge. Je vous le rappelle.
Je m'habille
pour ceux qui ont vécu le grunge, on s'en souvient.
C'était moche.
Bon, c'était pratique.
Il fallait aimer les mises à carreaux un peu, tu sais.
Ouais, mais il y avait. Voilà, c'était très très pratique. Donc, la bonne idée, donc, c'est de mettre aux enchères ce gilet.
Parce qu'il l'ont retrouvé ou gardé?
Alors en fait, c'est la deuxième fois qu'il est mis aux enchères. La première fois,
il l'avait vendu combien?
137 500 $.
Ah ouais, 137 000 le truc en laine moche.
C'était en 2015 et là, donc le prix de départ c'est 50 000 $, mais la maison de vente Julian's Auction espère le vendre entre 200 000 et 300 000 $. Un gilet en laine vert olive. Il paraît qu'il y a même des trous de cigarette et que ça pue la transpiration de Kurt.
Bah oui, faut
pour
pas
la transpiration, je suis pas sûr, j'invente. Mais pour les trous de cigarette, c'est totalement vrai, mais d'après Darren Julian, qui je pense on pourra le mettre au pilori celui-là, qui est donc le PDG de cette maison de vente de New York, c'est le summum du vêtement qu'il ait jamais porté, parce qu'en fait comme il n'avait pas de vêtements de scène, imaginez donc l'artiste, il venait avec ses vêtements qu'il avait même mis le matin ou même il y a trois jours, ouais. Et qu'il arrivait sur scène avec et qu'il se mettait pas dans la peau,
oui,
d'un personnage, non c'était Kurt
Cobain, il arrivait en t-shirt en jean quoi.
Voilà, et que donc ça c'est iconique aussi, qu'il faut absolument l'acheter.
Donc voilà. Le business est partout, même dans les trucs ridicules de l'art.
Il y a une de ces guitares aussi qui va être vendue, hein, une Fender, à 500 000 $ aussi. Pas de petit profit, je vous le disais. Non mais quand même, allez vendre un gilet quand même en laine pourrie, enfin je veux dire... Pas de limite. Et puis alors, pas de limite non plus sur une fresque dessinée par Kessaring. Il s'agit plus précisément d'un dessin fait à la brosse et à la peinture noire. Hein. C'est dans 83, quelque chose comme ça. Il est allé à Grace House, c'est une maison catholique pour les enfants qui n'existe plus, hein, aujourd'hui. C'est devenu un lieu résidentiel. Il a rencontré les gens sur place et puis il décide de faire les dessins de 13 personnages, qui a des chiens, il y a
sur
des
un
gens,
mur, du coup.
Sur un mur. Il y va très simplement. D'ailleurs, ce qui est très remarquable, c'est que ce dessin, cette fresque, n'est pas signé, tellement il est allé pour... comme ça, pour aller donner un peu de vie aussi à des enfants dans un établissement qui les accueillait. Et donc, voilà, c'était là. Il y a même des gens comme le directeur qui a été dessiné par Kessaring sur le mur. Enfin voilà, donc les gamins passaient, il y en a même qui avaient écrit dessus. Enfin, c'était un lieu important aussi pour la vie de l'établissement. Et ben, ils ont découpé les personnages pour les mettre aux enchères, parce que oui, il n'y a pas de petit profit. Alors c'est l'église, hein, catholique, qui a décidé de mettre aux enchères le 13 novembre prochain, ça sera la maison Bonhams qui va donc nous vendre cette peinture de la main de Kessaring. C'est 13 panneaux et le montant. Alors là, pardon, mais Kurt
ça cote Kessaring.
C'est pas du gilet en laine. Hein. Ça, alors ils espèrent, c'est une estimation entre 2 700 000 et 4 500 000 euros.
Ouais, pas mal.
Ouais, je laisse un petit blanc histoire de quand même vous montrer à quel point c'est important. Alors, ce qui est quand même dingue, c'est que ça représente 450 kilos, tout ce bazar, et que ça a coûté 900 000 dollars de le découper. Donc, c'est quand même pas mal d'argent. Pour essayer de s'en faire, évidemment, c'est pour rénover une église. Mais ça fait quand même causer, même dans le petit monde catholique et des prêtres, qui estiment que là, quand même, il y a un truc un peu absurde. Parce que il y en a qui auraient aimé que ça soit dans un musée, sauf que tout le monde leur rappelle qu'une fois que ça sera vendu au plus offrant, et que comme pour Kurt Cobain, je vais y arriver, et Cassa Wing, c'est pas forcément des collectionneurs individuels qui achètent, mais des fonds d'investissement ou enfin voilà, c'est-à-dire des gens qui en fait vont faire fructifier tout ça pour des clients extérieurs. Donc voilà, il y a pas de petit profit et on est dans l'absurde.
Alors je poursuis avec ma petite rubrique énergie environnement, et je suis tombé fan aujourd'hui d'une dame qui s'appelle Anne Bruniera. Je ne la connaissais pas, j'avais pas percuté, et là
elle est à la République en marche.
Ah ouais, elle est à la République en marche, et franchement ils sont forts à la République en marche, moi je le dis.
Tu la connaissais pas, elle?
Alors j'avais non, je l'avais jamais vue. Et parce que je m'en fous. Alors elle est élue je m'en fous, je le répète, elle est élue du Rhône, hein, donc c'est une élue de la 4e circonscription du Rhône. Et elle a été chopée dans un magazine que je ne connaissais pas non plus, qui s'appelle Nouveau Lion, un truc qui a l'air super pas bien. Et elle y va et elle fait la propagande d'une voiture. Elle dit cette voiture est robuste et sûre. Donc c'est un SUV Volvo XC40. Je ne connaissais pas, bien évidemment. Et voilà, elle vante cette bagnole qui est géniale, plein de confort, la sécurité, tout ça. 53 640 euros la bagnole, hein, c'est pas un petit truc. Alors c'est la semaine après que les SUV ont été un peu pointés du doigt en disant attention, ça pollue encore plus qu'une bagnole normale. Oui, donc du coup elle a l'air con. Tous les élus verts de la région lui ont sauté dessus sur les réseaux sociaux, pas ils l'ont pas tabassé. Hein. Du coup on a droit à des trucs contre elle. Notamment, on rappelle que suite à cette affaire des SUV, Mathieu Orphelin et Delphine Bateau avaient fait passer un amendement pour demander que la pub pour les SUV soit interdite. Ça a été rétoqué par les élus de la République en marche, et du coup ils se moquent tous d'elle. Ah ben on comprend, elle défend les SUV, et elle est tellement intelligente et forte, cette dame, qu'elle a répondu à tous ces tweets des écolos, là, ces méchants, là, ces Khmer verts, là, ces terroristes verts, là. Elle a répondu, elle a dit, oui, qu'il y ait des tweets d'écologistes, c'est de bonne guerre. Ils portent leurs paroles, notamment sur la réduction de la voiture en ville, un sujet que je porte aussi depuis longtemps. Et là, on se dit, ah, c'est fort, elle arrive à porter le sujet de la réduction de la voiture en ville en faisant la promotion d'une bagnole et d'un SUV. Elle est assez forte. Alors ça reste, à mon avis, pour moi, un des grands mystères de l'univers qu'on puisse arriver à faire les deux en même temps, parce que j'ai jamais vu autre chose de sa part. En tout cas, ça remontre le vrai positionnement pitoyable de La République En Marche sur l'écologie. Mais il y a un truc qui m'a quand même fait plaisir, et je suis désolé d'être méchant, mais elle s'est pris une énorme claque dans la gueule, cette dame, Anne Bruniera, de la part de son propre parti. Pourquoi? Parce qu'elle postulait se présenter à la mairie de Lyon. Et ils lui ont dit, top, on a GG de notre côté là, GG il est avec nous, c'est GG qu'on présente, Gérard Collomb pour les pas intimes, nous on l'appelle GG. Et elle s'est fait mettre de côté à cause du papy Gérard Collomb, là, le récidiviste qui s'accroche à son poste. Et moi je trouve ça drôle, c'est bien.
Et on en avait parlé parce qu'effectivement elle disait qu'il y avait que des bonhommes finalement qui étaient dans la course, elle a tout à fait raison, et qu'elle était pas contente parce qu'en fait là, tout cet investiture avait pris beaucoup de temps, et donc elle a été dans la presse lyonnaise ces derniers temps, et qu'elle continue a priori à vouloir y rester.
Mais et je vais relire sa phrase parce qu'elle parle d'elle, troisième personne, un peu comme certains acteurs célèbres. Elle dit, le mouvement La République En Marche ne comprend pas les enjeux de notre territoire et ne considère pas la candidature de la militante engagée, députée loyale et élue expérimentée que je suis. Oui, bon, on s'en fout. Hein. Bon, bref, c'était drôle. Et puis, juste pour terminer sur la pollution de l'air, la France a été condamnée aujourd'hui une nouvelle fois par la Cour de justice européenne. On espère que ça ira jusqu'à des sanctions. Et la ville de Lyon est condamnée deux fois dans cette condamnation. Une fois pour le dépassement des valeurs limites horaires sur une durée courte, et une fois sur les dépassements des limites sur une durée longue, une limite sur les durées annuelles. Donc on constate qu'une fois de plus, rien n'est fait. D'ailleurs, des écolos ont fait remarquer que la politique de la ville de Lyon, et ce que dénonce et ce qui est contenu dans ce rapport de la Cour de justice européenne, c'est que les villes comme Lyon mènent une politique de préservation, de tentative de préservation de l'air au sein des micro-centres-villes. Donc là, on va essayer de limiter les voitures sur la presqu'île, des choses comme ça. Et en fait, ils rappellent que la pollution, elle est globale et qu'en fait, il faut une politique générale. Et dans les projets lyonnais, on va parler du déclassement de la 6 et la 7, qui est plutôt positif, mais c'est juste quelque chose qui montre qu'en fait, on enlève, on va détourner la circulation automobile qui avait à cet endroit-là pour la mettre ailleurs, ce qui va continuer de polluer. Et ce que dit notamment la Cour de justice européenne, c'est que c'est pas ça une politique de protection de l'environnement, c'est prendre des vraies mesures, mais là, je crois qu'il n'en est pas question.
Allez,
il nous reste 5 minutes pour terminer.
Quelques minutes, on va faire très rapidement, puisqu'on n'aura pas le temps d'aller bien loin, mais juste pour dire, vous savez, le grand problème que nous subissons aujourd'hui, c'est les problèmes de hackers, de piratage et de tout un tas de trucs. On a appris il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine de jours, que des hôpitaux du Sud-Ouest s'étaient fait pirater. Alors pas les dossiers des patients, mais par contre, l'idée c'est de bloquer évidemment le fonctionnement, hein, c'est ce qu'on appelle les rançons logicielles, là, les machins, c'est dur à dire en français en fait. Là, c'est l'agglomération du Grand Cognac qui a vu 400 de ses ordinateurs bloqués. Il y en a 40 qui n'ont jamais été débloqués. Donc là, l'idée, évidemment, pour les vilains pirates et les vilaines pirates, c'est de bloquer des ordinateurs pour récupérer de l'argent. Tu me donnes du pognon, je te les débloque. Ça marche bien, il paraît. Alors, il y a plein d'endroits, en fait, hein, dans le monde qui se font attaquer de cette manière. On ne peut pas dire que les gens payent beaucoup pour l'instant. On sait aussi qu'il y a des multinationales qui le subissent et qui ne le font pas savoir et qui se retrouvent à payer derrière parce que ça touche aussi des dossiers clients et des consommateurs et des consommatrices peuvent être visés avec... et puis c'est pas bon des fois, voilà. Il y a par exemple le NordVPN qui a été piraté. NordVPN, vous le savez peut-être, c'est un VPN assez connu parce que ça sert pas mal quand vous allez dans des pays... peu démocratique.
Alors, ça sert plus du tout en Chine parce qu'ils ont bloqué.
Mais pendant longtemps, ça a été un de ces VPN qui servait aux gens qui travaillaient là-bas sur place et puis aux Chinois et aux Chinoises qui avaient accès du coup à un VPN pour contourner la censure sur Internet.
C'est un élément logiciel qui permet de détourner la surveillance et le suivi de ce que vous faites sur Internet.
Donc c'est très utilisé, c'est très un bien. Des VPN les plus connus. NordVPN a enfin admis que la société avait été piratée en mars 2018, c'est-à-dire qu'il faut quand même attendre longtemps maintenant pour que des entreprises fassent savoir qu'elles ont été piratées, et c'est souvent parce qu'elles sont mises devant le fait accompli qu'on est au courant. Là, ça pose quand même des problèmes. C'est NordVPN. Je prends l'exemple sur la Chine, qui a des gens qui n'ont pas envie d'être connus pour utiliser le VPN, d'être pistés, et on se retrouve avec un piratage derrière. Donc, et c'est pas les seuls, hein. Il y a Torguard, Viking VPN, donc ce sont des aujourd'hui fournisseurs de des sociétés de VPN qui ont été touchés assez massivement et elles ne le font pas savoir, c'est multinationales et il faut donc attendre qu'il y ait des gens qui les dénoncent parce qu'on en vient un peu à ça ou qu'il y ait des suspicions et puis que finalement au bout d'un moment les sociétés soient obligées de s'exposer et d'expliquer qu'évidemment il y avait des soucis. Et alors dans le truc le plus marrant du piratage, je sais pas si tu avais vu ça, il y a une chouette appli là qui était sortie ces derniers temps qui s'appelle eRosary.
Non, je ne connais pas.
eRosary, si tu veux, c'est le Vatican qui a sorti ça.
Ah oui, oui, oui.
C'est donc à la manœuvre le directeur du réseau mondial de prière du pape qui s'appelle Frédéric Fornos, on a de la chance, c'est un jésuite français, s'il vous plaît, qui a donc décidé d'amener la technologie au service de la prière. Donc ça pouvait permettre, si jamais tu étais jeune, si tu es jeune d'ailleurs, parce que tu l'es encore, j'imagine, toi qui m'écoutes, d'apprendre à prier correctement et puis
avec ton téléphone.
D'avoir une aide, ta tablette, ton téléphone, ton machin connecté, tu te débrouilles. Donc c'était monté avec Gadget Tech, c'est difficile à dire, c'est une entreprise sud-coréenne. Donc voilà, l'idée, c'était un objet qui était avec Acer en fait, c'est pas juste une appli. Donc ça valait 99€, enfin voilà, c'était une machine avec l'appli dedans, si tu veux, pour faire simple. Et ben le machin a été
piraté.
Et ce qui est marrant, c'est qu'il est très bon chrétien catholique, ce hacker ou cette hackeuse, puisqu'ils l'ont fait savoir tout de suite.
Ouais, alors du coup, c'est pas drôle, on pourrait se dire, c'est des anarchistes qui ont hacké une église pour mettre des messages anticléricaux. Bah non, c'est pas drôle.
Mais la plupart du temps, d'ailleurs, il y a beaucoup de hackers qui aujourd'hui font savoir aux multinationales qu'elles sont attaquées. Ou alors, par exemple, on avait eu le Parti Socialiste qui avait eu une faille dans son site internet. Et il y a un site spécialisé en France qui raconte, qui va chercher justement toutes ces problématiques de piratage. Et qui, au bout d'un moment, quand les gens ne réagissent pas, le font savoir publiquement que ce n'est pas protégé. Je trouve que c'est une bonne méthode.
Ouais. Et ben voilà, il nous reste 10 secondes pour se dire au revoir, puisque il va être 20h et qu'il y a une émission après nous. On remercie Léna d'être venue nous voir et nous d'être venue nous parler de la de la situation des AESH ex-AVS là. Et tu reviens quand tu veux si la situation évolue ou même si elle évolue pas. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, 19h-20h. Bye bye.
Et on vous laisse avec Footrack.